Alors, je pense que vous savez que aujourd'hui, dans tout le monde chrétien, on célèbre ce qu'on appelle la fête des rameaux. Alors, c'est un vieux mot maintenant qu'on n'utilise plus qu'en jardinage, mais ça fait allusion au jour où Jésus est rentré à Jérusalem. Évidemment, je n'ai pas pu m'empêcher de penser en préparant le message que il a passé devant, je sais qu'entre deux, les Grecs étaient passés, les Romains ont fait aussi des destructions, mais il devait certainement rester des restes de la muraille de Néhémie. Et il est passé par une porte. Alors, il est passé, en fait, il venait de Béthanie, donc il est passé, il était au pied du mont des Oliviers, et il est rentré au nord-est de Jérusalem, en haut, donc quand on regarde une carte, hein, en haut à droite. Et donc, il a dû passer et voir, évidemment, toutes ces murailles qui avaient été plus ou moins reconstruites par Néhémie. Donc, je n'ai pas pu m'empêcher d'y penser. Et du coup, comme c'est quand même aujourd'hui le dimanche des rameaux, se rappeler aussi que ce jour-là, Jésus savait très bien ce qui l'attendait. Il rentrait à Jérusalem pour donner sa vie. Et curieusement, quand il est arrivé, évidemment, les gens ont coupé des branches, ont jeté leurs manteaux par terre, comme on ferait pour un roi. Ils avaient bien compris que c'était le roi, qu'il allait être le roi, mais ce n'était pas le même royaume que ce que le cœur humain attendait. Parce qu'il a choisi d'entrer ni à pied, ni à cheval, ni dans un char, mais il est rentré sur un petit âne, même pas un bon vieil âne bien aguerri, non, un ânon, sur lequel jamais personne n'était monté, donc c'était risqué, mais bon, il a été bien sage apparemment, et oui, parce que vous savez, ça peut, comme les chevaux, hein. Et vraiment, ça a un message très fort, c'est comme si aujourd'hui, bon, je sais que c'est à la mode en ce moment, mais le président des États-Unis, ou je ne sais qui, rentrerait en mobylette. C'est à peu près ça, c'était la mobylette de l'époque. Ça faisait vraiment, aux yeux humains, c'était ridicule. Il venait comme roi, il allait vraiment donner sa vie et vraiment devenir le roi du royaume de Dieu, etc. Et il rentrait sur un petit âne. Et je crois que c'est un message auquel il faut penser ce matin, puisque tous les chrétiens du monde aujourd'hui fêtent cette fête des rameaux, hein. Et que nous aussi, on puisse lui donner toute notre louange et essayer de... Bien sûr, on ne peut pas comprendre, mais essayer d'appréhender un peu ce que ça représentait pour lui. De savoir que tout le monde l'adorait, tout le monde était là, et que, évidemment, ce n'était probablement pas la même foule qui l'a condamné quelques jours après, mais qui a crié « Crucifie-le, crucifie-le ». Bon, ils étaient payés pour ça, mais c'est triste de penser à ce qui s'est passé en quelques jours. Voilà, donc c'était important de le rappeler. Parce que toute cette semaine, les chrétiens du monde entier appellent ça la semaine sainte, c'est-à-dire tout ce que Jésus a passé de Pilate à Hérode, d'Hérode à Pilate, et ainsi de suite. Il y a eu ce fameux reniement de Pierre avec le coq qui a chanté. Des choses douloureuses qui montrent vraiment notre humanité. Hein, tout le monde attendait Jésus comme un roi puissant. Et puis voilà. Il rentre sur le dos d'un âne, c'est les petits-enfants qui glorifient son nom quand il arrive, et puis il va donner sa vie, il va se laisser faire, et par les hypocrites pharisiens, et par les Romains. C'est un mauvais début pour un roi, hein, et pourtant, il nous a, grâce à ça, il a vraiment tout fait pour nous. Donc c'est important de s'en rappeler aujourd'hui. Alors, on en était resté la dernière fois, Néhémie, qui essayait de corriger les injustices flagrantes qui étaient à l'intérieur du pays. Donc, vous vous rappelez que les riches juifs avaient hypothéqué les terrains, tellement prêtés avec intérêt que les gens étaient ruinés, n'avaient plus un sou, et se retrouvaient dans des circonstances où ils étaient obligés de se vendre en esclavage, leurs enfants et eux-mêmes. Et évidemment, vous imaginez la colère intérieure de Néhémie quand il voit ça, sachant que la Bible est claire et qu'ils auraient dû connaître la loi, claire sur ce qu'il fallait faire pour les pauvres. Et il y a tout un tas de lois dans la Bible qui explique comment prendre soin des plus pauvres, des gens qui n'ont rien. Et vous savez, il n'y avait aucun système social à l'époque. Il faut toujours s'en rappeler, nous on vit dans un certain confort social. Mais il n'y avait rien. Le seul bien qu'on pouvait avoir, c'est les enfants qui travaillaient pour vous quand vous étiez âgé ou malade, la famille, si jamais il y avait un souci. Et si on n'avait ni l'un ni l'autre, on était vraiment mal, il restait la mendicité. Donc, c'est quand même problématique. Rappelez-vous Naomi quand elle est rentrée, heureusement sa belle-fille est allée glaner dans les champs. Et alors justement, comme il se trouve que Jean-Gilles était en train de lire les Lévitiques, et que moi, je n'ai pas eu trop de temps pour travailler ces différentes lois, je lui ai demandé de vous faire un petit résumé des lois de la Bible que vous ne connaissez peut-être pas, parce que je suis sûre qu'il n'y en a pas beaucoup ici qui ont travaillé le Lévitique pendant plusieurs jours. On en lit des petits extraits de temps en temps, mais c'est quand même assez, bon voilà, un petit peu dur à lire, un petit peu, on sent que ça n'a pas l'air très adapté à notre vie, etc. Mais il y a des trésors dans le Lévitique, comme dans tous les livres de la Bible. Donc j'ai demandé à Jean-Gilles, puisqu'il était dedans, de vous faire un petit résumé de 5-6 minutes, c'est pas pour vous embêter, mais que vous ayez une idée de ce que la Bible proposait pour les pauvres. Parce que parfois on a l'impression, les pauvres, la Bible, finalement elle s'en occupait pas tant que ça, etc. Si. La parole de Dieu est très claire et déjà sous l'Ancienne Alliance. Donc on va écouter un petit peu le petit résumé de Jean-Gilles. T'as 5 minutes, 6 minutes.
En 5 minutes. Bonjour tout le monde d'ailleurs. Oui, donc en fait le pauvre dans le Testament, j'ai intitulé ce petit résumé, le pauvre dans l'Ancien Testament. En fait je suis en train de reprendre la Bible depuis le début et puis j'étais vraiment touché par ces versets qui parlaient justement de comment Dieu considérait et comment Dieu voulait que le pauvre il soit traité parmi son peuple. Et quand elle a parlé de ça, de Néhémie, et qui était justement offusqué de voir comment les choses se passaient là, dans cette cupidité qu'il y avait, donc en fait, ça m'a aussi, c'est revenu dans mon esprit, toutes ces choses que j'ai lues en allant au boulot. Alors en fait, lorsque Dieu vraiment prenait soin du pauvre et il avait à cœur justement que le peuple justement puisse prendre soin de tout un chacun et particulièrement les pauvres, la veuve, l'orphelin. Et donc en fait même lui au niveau des sacrifices qu'on devait offrir, c'est vrai qu'on devait apporter des taureaux, des ânes, plein de choses, mais pour le pauvre il y avait aussi une juste partie. Il dit, en fait, pour celui qui devait offrir un sacrifice de culpabilité, en Lévitique 14, verset 21, « S'il est pauvre et que ses ressources soient insuffisantes, il prendra un seul agneau qui sera offert en sacrifice de culpabilité après avoir été agité de côté et de l'autre avec lequel on lui fera l'expiation. » Il prendra un seul dixième de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande et un log d'huile. Il prendra aussi deux tourterelles ou deux pigeons selon ses ressources, l'un pour le sacrifice et l'expiation et l'autre pour l'holocauste. Et dans la manière dont les champs étaient traités, les champs devaient être récoltés, il y avait aussi justement, Dieu avait réservé quelque chose aussi pour le pauvre. Il est dit dans le Lévitique 23, verset 22, « Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger, je suis l'Éternel, votre Dieu. » Il a vraiment souligné qu'en fait, sa divinité, à travers justement cette recommandation, cette loi. « Quand vous ferez la moisson dans votre pays, Lévitique 19, verset 9, « Tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans la vigne, tu ne ramasseras pas les grains qui seront tombés, tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. » Il répète encore, je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc il y a vraiment cette considération de Dieu pour la personne du pauvre. Et De même, les juifs ne devaient pas justement tirer profit de la pauvreté des autres. Et il dit, si tu prêtes de l'argent, donc en fait, là maintenant, on se trouve dans Exode 22, 25, si tu prêtes de l'argent à mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne seras point à son égard comme un créancier. Tu n'exigeras de lui point d'intérêt. Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil, car c'est sa seule couverture. C'est le vêtement dont il s'enveloppe le corps. Dans quoi coucherait-il? S'il crie à moi, je l'entendrai, car je suis miséricordieux. Deutéronome 24, verset 10, dans cette même optique, il dit, lorsque tu feras à ton prochain un prêt quelconque, tu n'entreras pas dans sa maison pour recevoir son gage. Tu te tiendras dehors, et l'homme à qui tu prêtes t'apportera le gage dehors. Et si l'homme est pauvre, tu ne te coucheras pas sur son gage. Tu ne manqueras pas de lui rendre le gage au coucher du soleil, et il couchera dans son vêtement, et il te bénira. Et cela sera ta justice devant l'Éternel, ton Dieu. Tu n'opprimeras pas l'homme à gage. Tu n'opprimeras pas l'homme à gage, affligé et pauvre, d'entre tes frères et d'entre les étrangers qui sont dans ton pays, dans tes portes. En son jour, tu lui donneras son salaire. Le soleil ne se couchera pas sur lui, car il est pauvre et son désir s'y porte, afin qu'il ne crie pas contre toi et à l'Éternel. Contre toi à l'Éternel et qu'il n'y ait pas de péché sur toi. Et le pauvre devait avoir aussi le soutien des siens. Dans Lévitique 25, au verset 35, et suivant, chaque fois je cite un peu les suivants, je dis le premier verset, mais il y a aussi d'autres versets. Et il dit, si ton frère est devenu pauvre et que sa main devienne tremblante à côté de toi, tu le soutiendras, étranger ou hôte. Donc, ce n'était pas seulement frère de sang, mais aussi, c'est le prochain en fait, le prochain, étranger ou autre, afin qu'il vive à côté de toi. Tu ne prendras de lui ni intérêt, ni usure, c'est-à-dire profit. Tu craindras ton Dieu afin que ton frère vive à côté de toi. Tu ne lui donneras pas ton argent à intérêt, tu ne lui donneras pas tes vivres à usure. Lévitique 25, 39, il dit, si ton frère devient pauvre auprès de toi, qu'il se vende à toi. Et c'est le cas justement de certains qui, à l'époque de Néhémie, il dit, qu'il se vende à toi, tu ne lui imposeras point le travail d'un esclave. Il sera chez toi comme un mercenaire, comme celui qui y demeure. Il sera à ton service jusqu'à l'année du jubilé. Il sortira alors de chez toi, et lui et ses enfants avec lui, et il retournera dans sa famille, dans la propriété de ses pères, car ce sont mes serviteurs que j'ai fait sortir du pays d'Égypte, et ils seront point vendus comme on vend des esclaves. Tu ne domineras point sur lui avec dureté, tu craindras ton Dieu. Et donc en fait, ces pauvres qui avaient été achetés et qui s'étaient vendus, ils avaient droit au rachat. Et Lévitique 25 toujours, et il est dit, et dans tout le pays de votre possession, vous donnerez le droit de rachat pour la terre. Ça c'est pour la terre, si on avait vendu en fait la terre. Et si ton frère est devenu pauvre et vend une partie de sa possession, alors que celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, vienne et rachète la chose vendue par son frère. Mais si un homme n'a personne qui ait droit de rachat et que sa main ait acquis et trouvé suffisamment de quoi faire son rachat, il comptera les années depuis sa vente, etc. Donc il y avait une procédure pour pouvoir racheter justement ce qui avait été vendu, afin que ça puisse rester en fait dans la famille, dans la tribu où la propriété a été donnée en héritage. Et le pauvre justement, il devait en fait... C'est avec bon cœur qu'on devait faire les choses pour lui. Et c'est dans ce passage, à trois reprises, Dieu a vraiment mis accent sur le cœur. Et justement, c'était par rapport à la relâche. Et il dit, au bout de 7 ans, tu feras relâche. C'est ici la manière du relâche. Tout créancier relâchera sa main du prêt qu'il aura fait à son prochain, et il n'exigera pas de son prochain ou de son frère. Il ne l'exigera pas de son prochain ou de son frère, car on aura proclamé la relâche de l'Éternel. Tu, ce qu'on appelle jubilé, mais là c'est un jubilé de 7 ans. Il y a le grand jubilé ou 7 fois 7 ans, mais là c'est des petits, chaque année, chaque 7 ans, il y avait une relâche. Il dit, tu l'exigeras de l'étranger, mais ta main ne relâchera ce que ton frère aura de ce qui t'appartient. Sauf quand il n'y aura point de pauvres au milieu de toi, mais on sait qu'il y avait toujours eu des pauvres. Car l'Éternel te bénira abondamment dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage pour le posséder, pourvu seulement que tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, pour prendre garde à pratiquer tout ce commandement que je te commande aujourd'hui. Car l'Éternel ton Dieu, et c'est là que ça commence à devenir intéressant, car l'Éternel ton Dieu te bénira comme il te l'a dit, et tu prêteras sur gage à beaucoup de nations, mais toi tu n'en prêteras pas sur gage, et tu domineras sur beaucoup de nations, et elles ne domineront point sur toi. Quand il y aura au milieu de toi un pauvre, quelqu'un de tes frères, dans l'une de tes portes, dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu lui ouvriras libéralement ta main, et tu lui prêteras sur gage assez pour le besoin dans lequel il se trouve. Prends garde à toi, de peur qu'il n'y ait dans ton cœur quelques pensées de Bélial. Vraiment, c'est assez. C'est vraiment, c'est pas une pensée qui est de Dieu, en fait, le fait de retenir sa main. De retenir sa main. Il dit, quelques pensées de Bélial, et que tu ne dises, la septième année approche, l'année de relâche, et que ton œil ne soit méchant contre ton frère pauvre, et que tu ne lui donnes pas, et qu'il ne crie contre toi à l'Éternel, à l'Éternel, et qu'il n'y ait du péché en toi. Tu lui donneras libéralement, et ton cœur ne sera pas triste quand tu lui donneras, car à cause de cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans toute ton œuvre, et dans tout ce que tu mettras ta main. Car le pauvre ne manquera pas au milieu du pays. En fait, c'est que quand il y avait 7 ans qui arrivaient, tous les 7 ans devaient faire relâche. Et si par exemple un pauvre venait à toi, la sixième année, tu dis, mince, il y a la septième année, je devrais faire relâche, il ne pourra pas me rembourser ce que je lui ai prêté. Donc Dieu ne voulait pas que ça soit dans le cœur de son peuple, que ça soit la première année ou la sixième année avant de faire relâche, tu devais donner libéralement ce que tu avais à donner. Et ça, Dieu avait ça à cœur pour son peuple. Donc il y a tout cela. Donc en fait, c'était vraiment cette pensée dans le cœur de Dieu. Dans le cœur de Dieu. Je regarde si je dois lire encore ce verset. Oui, on va lire. Si ton frère en hébreu, comme homme ou femme, t'a été vendu, il te servira 6 ans, et la septième année, tu le renverras libre de chez toi. Et quand tu le renverras de chez toi, tu ne le renverras pas à vide. Tu lui donneras libéralement de ton menu bétail, de ton air, de ta cuve. Tu lui donneras de ce que l'Éternel ton Dieu t'aura béni. Tu te souviendras que tu as été serviteur dans le pays d'Égypte, et que l'Éternel ton Dieu t'a racheté. C'est pourquoi je te commande ces choses aujourd'hui. Et c'est pas parce qu'on est pauvre qu'en fait que Dieu accepte tout. Et Dieu est un Dieu juste. Et ça, quand je relis justement ces premiers livres de la Bible, et je vois qu'en fait que Dieu, c'est un Dieu juste, il ne se renie pas à lui-même, et il est juste à l'égard du pauvre comme à l'égard du riche. Et il dit, tu ne favoriseras pas non plus le pauvre dans son procès. Il dit, et aussi, vous ne ferez pas d'injustice dans le jugement, tu n'auras pas égard à la personne du pauvre, tu n'auras pas égard à la personne du pauvre, et tu n'auras pas la personne du riche, tu jugeras ton prochain avec justice. Donc ce n'est pas parce qu'on est pauvre que la justice doit être plus clémente.
c'était un gros travail, mais que vous reteniez cette pensée quand même que le Seigneur, déjà dans l'Ancien Testament, avait des lois très précises pour protéger les gens les moins riches. Et il y a ce sentiment de justice très très fort, vous voyez, dans les deux sens. On ne favorise pas ni l'un ni l'autre, voilà. Et là, ça donne une image très, très proche de qui est Dieu. Alors, comme je dis la dernière fois, la pauvreté de cette époque-là n'est pas la même qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a quand même d'autres problèmes. Et justement, Paul, c'est pas Paul Goulet, c'est Joël hein, qui a fait une petite erreur en disant « Néhémie, il a eu ce problème avec les dettes ». Et moi, je me dis « avec les dettes ». Parce qu'il parlait des dettes et de la gestion de l'argent. Et non, c'est pas du tout le même problème, en fait. Hein. Du coup, après, j'ai dit « Non, j'ai pas vu ça, moi, dans Néhémie ». Effectivement, il y a un problème de dettes, mais ce sont pas des dettes à cause de dépenses inconsidérées, de cartes de crédit et autres, mais ce sont des dettes pour survivre. Ce n'est pas du tout la même chose. Hein. Donc là, peut-être il n'a pas regardé le texte de près ou il a fait un petit raccourci, mais non, là, effectivement, ce n'est pas du tout le même problème. Avec Néhémie, c'était vraiment des dettes. Les gens devaient manger, devaient survivre, et ils ne pouvaient même plus manger et survivre. Donc on est dans une dimension tout à fait différente. C'est pour ça que je disais la dernière fois que quand on a des problèmes en face de gens qui se disent pauvres, on a besoin de discernement. Parce que parfois, il y a des gens, on pourra toujours leur donner de l'argent. Il faut mieux leur apprendre à pêcher que de leur donner du poisson. Parce qu'ils se retrouveront toujours, toujours, toujours dans la difficulté. Parce que, bon, il y a trop de cartes de crédit, trop de difficultés de gestion, etc. Donc pour nous, chrétiens, aujourd'hui, ça demande en plus du discernement. Voilà, demander à Dieu qu'est-ce qu'il en est. Et comme je disais la dernière fois, souvent, il faut prier. Parce que quelquefois, ce sont les gens les plus pauvres, sont quelquefois ceux qui ne disent rien et qui souffrent en silence. Et Dieu est obligé de nous mettre à cœur directement, donne à un tel, parce qu'ils ne disent rien, ils ne demandent rien. C'est une petite digression, mais je voulais quand même que vous voyiez à quel point Dieu est juste. Parce que souvent on voit l'Ancien Testament un peu comme quelque chose de très dur, hein. Et vous voyez, jusque pour les champs, pour tout, Dieu avait tout prévu. Alors vous imaginez ce que ressentait Néhémie devant l'injustice. Les textes étaient là, c'est concret, c'est pas de la haute théologie, c'est des choses simples, concrètes, le bout du champ, glaner, machin. Comment est-ce qu'ils ont osé faire ça? Et il était effectivement, il était conscient du problème. Il est dans une colère noire, je pense, à l'intérieur de lui. Hein. Mais les notables et les magistrats étaient ses alliés dans la reconstruction. Est-ce qu'il ne risquait pas quelque chose en les confrontant? Et justement, avec Paul Goulet, hier, on a parlé de la confrontation. C'est dangereux, la confrontation. Est-ce qu'il allait diviser le peuple, se mettre les notables à dos? Et Néhémie va choisir la solution de Dieu. Il ne veut pas garder cette pourriture sociale à l'intérieur du pays. Vous avez vu que la loi est claire. Si vous ne prenez pas soin des pauvres, etc., vous n'avez pas la bénédiction de Dieu. C'est pour ça qu'il y a ce rappel, « Je suis l'Éternel, ton Dieu ». Ce n'est pas simplement un refrain. C'est pour dire, voilà, attention, c'est moi Dieu. Hein. Et si vous suivez pas ce que je vous dis, vous ne pourrez pas être béni. Ce n'est pas possible. Donc il ne veut pas garder cette pourriture sociale, mais il a déjà tellement de choses à combattre à l'extérieur. Il se dit, si en plus à l'intérieur c'est pourri, on n'arrivera pas à s'en sortir. Et il dit, je fus très fâché lorsque j'entendis leurs cris. Et voilà la sainte colère de Néhémie. C'est-à-dire, quand on parle de sainte colère, c'est une colère semblable à celle de Dieu. C'est une colère que Dieu avait aussi à l'égard de ces gens qui se moquaient éperdument de la justice de Dieu. Et il faut faire attention, toutes nos colères ne sont pas saintes. C'est pas parce qu'on sert le Seigneur ou qu'on est responsable de quoi que ce soit que nos colères sont automatiquement saintes. Hein? Parfois, il y a des pasteurs qui pensent que s'ils se mettent en colère, c'est forcément une sainte colère. Non, non, pas du tout. La sainte colère, c'est ressentir le cœur de Dieu qui est fâché devant l'injustice, devant quelque chose qui n'est pas juste, qui n'est pas de Dieu. Mais malheureusement, notre nature humaine s'y mélange souvent. Et on va voir donc, je vous avais dit la dernière fois, comment Néhémie va gérer sa colère. Et le texte est simple, il dit « Je résolus de faire des reproches ». Alors littéralement, c'est « Mon cœur décida pour moi ». Alors, il y a plusieurs choses à dire là. Une autre traduction dit « J'ai maîtrisé mes sentiments et j'ai raisonné les notables et les chefs du peuple ». Une autre version anglaise dit « J'ai pris conseil avec moi-même et j'ai adressé des reproches ». Et le verbe hébreu implique une procédure légale. J'ai adressé des reproches, dans un sens légal. Donc Néhémie était très fâché, il était fatigué, il était en lutte avec l'extérieur, il lutte aussi contre le découragement intérieur et extérieur, il est soucieux de la sécurité de son peuple, il aurait pu laisser exploser sa nature humaine, c'est-à-dire sa colère. Vous savez, trop c'est trop, c'est ce qu'on aurait dit nous dans son cas, trop c'est trop. Dehors, dedans, ça fait trop, le découragement, etc. Il aurait pu laisser exploser sa colère. Il aurait pu dire, ça suffit, on a assez d'ennuis comme ça. Il aurait pu passer tous ses nerfs sur les notables en les traitant de tous les noms. C'est une possibilité. Égoïste, injuste, cruel, païen, idolâtre, rapace, puis tout ce que vous pouvez imaginer. Il y avait de quoi, quoi, avec les textes qu'on vient de lire. Hein. Mais la Bible dit, son cœur a décidé pour lui. Vous savez, dans l'Ancien Testament, le cœur, c'est l'intériorité de l'homme. C'est pas le petit cœur du... Voilà, qu'on met sur les dessins, hein, qui représentent l'amour, etc. C'est pas du tout ça. Dans l'Ancien Testament, c'est l'intériorité de l'homme, c'est à la fois son intelligence, c'est le lieu de sa décision, du courage, du sentiment aussi, mais ce n'est que aussi. Il ne va pas laisser exploser ses émotions, il va utiliser son intelligence. C'est pour ça qu'il dit, je résolus dans mon cœur, ou mon cœur décida pour moi. Donc, il y a ce côté sentiment, mais il y a aussi ce côté décision, intelligence, réflexion, discernement, sagesse. Donc il ne va pas laisser exploser qu'un côté du cœur qui est les émotions. Donc quand vous lisez la Bible, faites bien attention. Hein. Le cœur, ce n'est pas seulement les sentiments, c'est pas... Voilà. Et il décide de reprendre les puissants. Alors comment est-ce qu'il va s'y prendre? Et c'est ça qui est très très intéressant. Déjà, il ne va pas les insulter. Pourtant, il est en colère, hein. Il a le respect de ceux qui ont péché. Deux, il va convoquer une assemblée légale, côté officiel, côté légal. Et trois, il va bien établir et simplement les faits. Vous prêtez intérêt à vos frères, vous vendriez vos frères, alors que nous, on les a rachetés, les faits. Et ça, si vous avez des ennuis au boulot ou n'importe où ailleurs, je pense que c'est vraiment la marche à suivre, surtout quand on est très en colère, qu'on est face à une injustice flagrante. Un, c'est le respect. Le respect est pas seulement des puissants, mais de tous, chefs, collègues, profs. Le respect. Deuxièmement, rester dans la légalité et la lumière. On ne fait pas les choses par derrière, on ne fait pas de marchandage, on ne fait pas de petits comités en cachette. On fait les choses dans la lumière et dans la légalité. Il va convoquer tout le monde, les pauvres et les riches. Il fait une assemblée légale. Et la Bible dit que c'est différent. Hein, quand pour Matthieu, quand il s'agit d'une seule personne, évidemment, on ne convoque pas une assemblée pour une seule personne. On va voir la personne. Vous lisez dans Matthieu, c'est clair. Mais dans un cas comme celui-là, une injustice au travail ou autre, voilà. Troisièmement, on reste sur les faits. On ne fait pas de procès d'intention. Ah oui, vous vouliez faire ceci, ah, je suis sûre que vous pensiez à cela. Non, la vérité, pas de on dit, pas de on m'a dit, pas de j'ai entendu. La vérité des faits, simplement. Ça, c'est important, parce qu'il va faire ce qu'on dit souvent dans cette église, hein, clarté, droit, autorité. Clarté, il fait son assemblée droit, l'assemblée légale, et du coup, il a une autorité devant ces gens-là. Et grâce à ça, ils ne vont rien trouver à répondre. Ça, c'est important. Imaginez s'ils s'étaient mis en colère, s'ils les avaient traités de tous les noms. Ils auraient eu de quoi répondre. Mais là, il a été très clair, il a maîtrisé sa colère, il a maîtrisé ses sentiments, mais il a exprimé sa colère d'une façon recevable. Et ça, c'est important, parce que la Bible ne dit pas de ne pas se mettre en colère, mais d'exprimer sa colère de façon recevable, dans le respect. Alors, voilà. Il va les resituer, déjà dans un premier temps il se taise, après qu'il ait fait ça, et puis il va continuer. Un, vous n'agissez pas bien par rapport à la loi de Moïse. Deuxièmement, il va toucher la racine. Est-ce que vous ne devriez pas vivre dans la crainte de Dieu? La racine, c'est la crainte de Dieu. Et la racine de toutes les injustices, la racine de tous nos comportements déviants, tous ceux qui ne sont pas bons, c'est souvent, est-ce qu'on a ou pas la crainte de Dieu? Parce que s'ils avaient eu la crainte de Dieu, vous avez vu tous les textes que Jean-Gilles vous a lus, ils auraient été obligés de les appliquer. Mais ils n'avaient pas la crainte de Dieu. Ils refusaient même de penser à ce verset qui dit « Je suis l'Éternel, votre Dieu » et c'est pour ça que vous devez obéir à ces textes-là. Mon intérêt. Donc, la racine de tous les comportements déviants, de toutes les injustices qu'on trouve, c'est que les gens n'ont pas la crainte de Dieu. Et malheureusement, il n'y a pas que les non-chrétiens qui n'ont pas la crainte de Dieu. Et là, c'est souciant. Dans les églises, entre chrétiens, on peut ne pas avoir la crainte de Dieu. Parce qu'on est des hommes comme les autres. Et on a tous le droit à l'erreur. On peut tous se tromper. Et on peut tous, à une occasion ou une autre, ne pas avoir la crainte de Dieu dans un sujet donné. Hein? Je pense qu'on l'a tous éprouvé. Et probablement nous-mêmes, un jour ou l'autre, on n'a pas eu la crainte de Dieu en prenant certains comportements. Je veux dire, on n'est pas à l'abri. Hein? C'est pas parce qu'on a l'étiquette d'évangélique qu'on est à l'abri. On peut tous ne pas avoir la crainte de Dieu à un moment donné. Et c'est la racine de nos problèmes. Et puis le troisième point, il va dire, vous ne vous rendez pas compte que si vous continuez comme ça, on va être outragé, déshonoré par les nations et par nos ennemis. C'est-à-dire que lui retourne à ces textes que Jean-Gilles nous a lus. Rappelez-vous, si vous ne voulez pas que l'ennemi prenne autorité sur vous. C'était ça, en gros. Hein. Donc, si à l'intérieur, vous agissez de façon pourrie, de façon injuste, comment voulez-vous que les non-chrétiens vous respectent, que les païens de l'époque vous respectent, et nous, les non-chrétiens, hein. Et regardez combien de fois on va témoigner de Jésus-Christ à des gens. Et qu'est-ce qu'ils vont nous répondre? Oh, oui, alors là, les chrétiens... C'est sacrés hypocrites, regardez telle histoire, regardez tel scandale, regardez ci, regardez ça. Et moi, j'ai eu un voisin chrétien, oh là là! Et puis vous, ils peuvent vous faire un truc comme ça. Et ça, ça fait mal, parce qu'on sait que c'est vrai. Parce qu'il y a des chrétiens qui n'ont pas eu la crainte de Dieu. Et résultat, nous, quand on vient pour témoigner, aïe, aïe, aïe. Hein? Donc, les païens, les non-chrétiens, vont pas nous honorer. Et c'est normal, il faut se mettre à leur place. Donc on résume, se placer face à la loi, ce que vous faites n'est pas bien. Ah oui, ça aussi j'ai noté, il ne dit pas je. Moi, Néhémie, votre gouverneur, je trouve inadmissible votre attitude. Il aurait pu le dire. Non, ce que vous faites n'est pas bien dans l'absolu devant Dieu. Et il ne fait pas référence à ce qui se fait dans le monde ou chez les voisins. Parce qu'il pourrait dire aussi, ouais, je sais, hein, les voisins, nos voisins, ils font ça, etc. Non, non. Ce que vous faites n'est pas bien dans l'absolu. Deuxièmement, il cherche la racine, je l'ai dit. Il ne va pas développer toutes les branches et les feuilles. Ce qui l'intéresse, c'est le fond du problème. Crainte de Dieu, image de Dieu, proximité de Dieu ou éloignement de Dieu. C'est ça la racine de nos problèmes. Si je suis loin de Dieu, je ne peux pas avoir la crainte de Dieu. Et enfin, il va leur montrer les conséquences que souvent le diable nous cache. Si vous continuez comme ça, bah vous savez, hein, c'est même pas la peine de construire les murailles, à la limite, hein, les ennemis vont revenir. Ils vont de nouveau avoir une prise sur nous. Rappelez-vous ce que Jésus disait, il n'a rien en moi. Ah, j'aimerais bien qu'on puisse dire ça. Hein. Hélas, hélas, on est tous en chemin et puis voilà. Et on fait confiance à la grâce de Dieu. Mais Jésus pouvait dire ça, ce qui fait qu'il n'avait pas ses prises. Satan n'avait pas ses prises. Hein. Vous savez, maintenant, il y a ces petits murs d'escalade qu'on fait pour les enfants. Là, j'étais allée l'autre fois avec les petites filles. C'est génial, hein. Et oui, ils préparent des prises pour que les enfants mettent leurs mains. Et en regardant ce panneau, je suis très spirituelle hein, par moments, je pensais aux prises que l'ennemi a sur notre vie. Et parfois, on lui en offre des toutes belles, toutes belles, toutes belles. Hein, parce que je pensais en voyant ça, je dis, ouais, ils sont sympas quand même, ils ont bien adapté à la grandeur des mains des enfants pour qu'ils puissent s'accrocher. Et je dis, combien de fois nous, on fait ça avec l'ennemi? On lui donne des prises, comme ça. Ah, il a juste à plop, 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 c'est impeccable. Ça, et chaque fois qu'on rentre dans l'injustice, chaque fois qu'on n'a pas la crainte de Dieu et qu'on a des comportements qui ne vont pas, bah c'est comme si on mettait des nouvelles prises sur le mur d'escalade. Tiens, on va te faciliter les choses, Satan. Ça va être chouette, tu vas pouvoir rentrer et sortir comme tu veux. Rentrer plus que sortir, d'ailleurs. Voilà, et les prises à l'ennemi, c'est aussi les moqueries du monde envers les enfants de Dieu qui nous traitent d'hypocrites, qui relèvent tous nos scandales. C'est la conséquence inévitable qu'on constate dans toute l'histoire du peuple de Dieu. C'est désastreux et ça justifie l'athéisme ambiant. On se plaint de l'athéisme en France, mais l'athéisme en France vient de ce que les gens en ont eu ras-le-bol de l'hypocrisie des chrétiens, de différentes étiquettes. C'est pas le problème. Enfin, en dernier, et je dis bien en tout dernier, il va montrer son exemple. Celui de ses frères et de ses serviteurs. Parce que, bon, moi je cause, mais où elle en est ma vie hein? Et il dit, nous, donc lui, ses frères et ses serviteurs, apparemment il avait des frères hein, qui étaient avec lui sur place, nous leur avons prêté de l'argent et du blé. Donc moi je suis dans le même cas que vous, moi aussi j'ai prêté. Moi aussi je suis riche, il était riche, Néhémie. Moi aussi je suis riche et moi aussi j'ai prêté de l'argent et du blé. Puis alors là, il va s'associer aussi à la solution. Remettons-leur cette dette, je vous prie, toujours respectueux. Remettons-leur cette dette, rendez-leur aujourd'hui leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers, leurs maisons, plus les intérêts que vous avez pris au passage, 1/100 de l'huile, du vin, du blé et de l'argent. Remettons-leur. C'est-à-dire, bon, moi le gouverneur, hein, il aurait pu dire, bon, moi en tant que gouverneur quand même. Hein. Non, non, on la remet tous ensemble, on remet leur dette. Donc lui, il est parfaitement dans ce que Jean-Gilles vient de lire, ce que Dieu demandait. Il n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire en disant ça, il a simplement obéi à la loi. Et il le savait, hein. Surtout les prêtres, les notables, tout ça, les magistrats, tous ceux qui savaient lire, qui avaient probablement des rouleaux de la loi. Et la réponse, moi je la trouve étonnante. Ces gens qui étaient suffisamment pourris pour dépouiller des pauvres, et des vrais pauvres, eh bien ils sont d'accord. Et moi j'ai l'impression, alors là c'est mon impression, ils sont d'accord parce qu'ils ne peuvent rien dire. Il leur avait enlevé toutes les prises possibles. Il ne s'était pas mis en colère. Il ne les avait pas accusés. Il n'avait pas fait de procès d'intention. Il avait agi, il avait vraiment pris conseil dans son cœur, hein, dans son intériorité avec Dieu. Et du coup, ils n'ont pas trouvé de prise pour lui dire, oh, Néhémie, tu nous barbes. Va te faire voir ailleurs. Il n'y avait pas de prise. Parce qu'il a imaginé que s'il les avait insultés, s'il avait dit, moi je ceci, et vous cela, et vous êtes des ceci et cela... Ils avaient de quoi répondre, hein, de dire, oh, va te faire voir ailleurs, hein, on fait ce qu'on veut quand même. Hein. Toi, tu reviens là du roi, de chez le roi de Perse, tu as des sous. Mais il n'aura pas laissé de prise. Donc, il y a une réaction positive. Et voilà ce qu'ils disent, nous rendrons, nous ne demandons rien, nous ferons ce que tu dis. Moi, quand je lis ce texte, je me dis, waouh, ils allaient perdre plein de sous, ces gens-là. C'est que leur cœur a été touché, pour certains, et pour d'autres, ils n'ont pas trouvé de prise sur Néhémie. Et je crois que si on veut être des bons témoins dans la société où on est aujourd'hui, il ne faut pas laisser de prise à l'ennemi. Il faut traiter même nos ennemis avec respect. Et même dans les situations d'injustice, dire la vérité dans la lumière, de façon ouverte, assemblée légale, hein, vous rappelez-vous, et le Seigneur viendra nous aider pour que les gens changent d'avis. Même les gens les plus bouchés, ils peuvent changer d'avis. Si le Seigneur est avec nous. Mais si nous, on aura un mauvais témoignage, qu'on les maltraite, qu'on ne les respecte pas, même s'ils ne sont pas respectables, je suis d'accord, alors on aura des difficultés. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire par rapport à la colère. Néhémie avait su... Il a su maîtriser sa colère et ne garder que la bonne partie. Ce que vous faites n'est pas bien. Mais il a enlevé tout le charnel, toutes les injures, la colère destructrice, on va dire. Et c'est ça une sainte colère. C'est une colère qui ne cherche pas à détruire, mais à construire. Parce qu'en faisant ça, il les construisait, les Juifs. Hein. Il les remettait d'aplomb avec le Seigneur. Ah ! Donc, leur dette, à eux aussi, par rapport à Dieu, était couverte. Ils avaient rendu, ils avaient obéi, ils étaient blancs devant le Seigneur. Donc, il les construisait. Alors que s'il avait manifesté une colère destructrice, il empirait tout. Donc, vous voyez, quand nous, on ressent de la colère par rapport à quelque chose, je crois qu'il faut sonder notre cœur. Quelle est la part de colère qui est sainte, qui on réagit à une injustice? Ou est-ce que c'est vraiment ma chair qui sort les griffes? Alors là, il faut mieux laisser tomber. Mais s'il y a une part de sainte colère, alors il faut bien la séparer du reste et rester dans le respect, dans la paix, dans la droiture, dans la vérité, dans la lumière. Je crois que je me suis fait comprendre clairement. Voilà, c'était la solution au problème de colère et d'injustice. Donc Néhémie aurait pu s'arrêter là, mais il était conscient que la parole avait été donnée à un homme. Le problème n'était pas envers Néhémie, le gouverneur, mais c'était un problème devant Dieu, une désobéissance à Dieu. Donc, il se dit, c'est bien, ils sont tous d'accord, nous rendrons l'argent, nous ne demanderons rien, nous ferons ce que tu dis, mais il se dit, ouais bon, c'est pas à moi en tant que gouverneur, hein. Ça c'est bien, d'accord, ils sont contents, j'ai réussi à faire passer le message. Mais il va faire autre chose, il va appeler les prêtres. Parce qu'il dit ça, c'est trop sérieux. Il faut mettre Dieu dans le coup. Ça, c'est mon interprétation des choses. Parce que les prêtres représentaient à l'époque un Dieu, et il va les faire jurer pour authentifier le serment devant Dieu. C'est pas le tout de dire on va le rendre, et puis derrière de faire n'importe quoi. Ils se disent non, non, non. Là, c'est devant Dieu qu'ils ont péché, c'est pas devant moi, gouverneur. C'est devant Dieu. Et donc, c'est devant Dieu qu'il va falloir qu'ils fassent leur serment et leur engagement. Et il va ajouter une parole prophétique Vous vous souvenez du texte, vous l'avez certainement lu. Il va secouer son manteau. Alors, à l'époque, quand les gens allaient acheter du grain, il n'y avait pas de sac en plastique. Hein. On y revient, c'est bien. Je ne sais pas si on le fera avec les manteaux, nous, mais quand ils allaient acheter du grain ou de la farine ou différentes choses, ils repliaient un pan de leur manteau, ils le tenaient et on leur versait dedans. C'est pour ça ce verset qui dit « On vous versera une mesure tassée, etc. » Voilà. C'est allusion à ça. Hein. On prenait un bout du manteau, on le tenait comme ça, et on mettait le grain dedans. Puis, évidemment, si c'était une mesure bien tassée, on tassait pour qu'il n'y ait pas trop d'air dedans et qu'on en ait le maximum. Et du coup, il a dit voilà, il a pris son manteau, il a fait le geste devant eux, et il leur a expliqué « Si vous ne tenez pas parole, qu'il en soit ainsi. » Et il a secoué son manteau. C'est-à-dire que vous soyez secoué, jeté dehors et que Dieu vous rejette, quoi. Et ils ont dit « On est d'accord. » Bon, ça c'était un sacré engagement parce qu'ils se maudissaient eux-mêmes s'ils désobéissaient à leurs paroles. Le peuple répond qu'il en soit ainsi. C'était dangereux. Mais ce qui m'a surpris encore après, c'est qu'après tout ça, ils vont louer Dieu. Et je me suis dit, wow, ils se sont fait redresser les côtes, ils ont dû lâcher leur sou, ils ont dit qu'ils étaient d'accord, ils ont dû faire un serment. Hein, c'était beaucoup demandé. Et derrière, ils vont louer Dieu. Et je me suis dit, mais... Dis donc, ils sont sympas quand même, ces voyous-là qui ont abusé des autres, puis maintenant, ils sont contents. Ben oui, j'avais pas réfléchi. Quand on est libéré de son péché, quand on est libéré de sa faute, qu'on est réconcilié avec Dieu, qu'on a remis les choses en ordre avec Dieu, eh ben on ne peut faire qu'autre chose que louer le Seigneur, même si ça a coûté au porte-monnaie, même si ça a coûté à son je pense, leur amour propre. On a pris un coup au passage. Ils sont éclatés en louange. Parce que sur le coup, franchement, ça m'a surpris. Je dis, wow, je ne sais pas si moi, à leur place, j'aurais loué Dieu. Mais si, parce qu'ils étaient libérés de leur faute. Ça devait quand même leur peser. Ils avaient encore un reste de conscience. Ils étaient libérés et ils ont loué Dieu. C'est le dernier point de ce chapitre social. Néhémie va développer son expérience personnelle. Il dit, moi... Alors là, c'est curieux, ce texte. Je vais terminer par là, parce que j'ai largement dépensé mon temps. Mais il dit, du verset 14 au verset 19... Il ne parle que de lui. Bah tiens, d'un seul coup, on retrouve notre Néhémie. Et au premier coup d'œil, on pourrait dire, oh ben voilà qu'il se vante. Dès le jour où le roi ordonna que je sois leur gouverneur, ni moi ni mes frères on a vécu des revenus du gouvernement. Avant moi, les premiers gouverneurs accablaient le peuple. Leurs serviteurs eux-mêmes dominaient en maître sur le peuple. Mais moi, par crainte de Dieu, etc. Et on peut prendre le texte en mauvaise part, dire, oh là là, mais il se vante, Néhémie. Il se vante. Mais en fait, il fait un petit paragraphe pour dire... Voilà comment moi je vois le gouvernement de cette ville. C'est pas comme les anciens gouverneurs. Mes serviteurs n'oppriment pas le peuple comme les serviteurs des gouverneurs précédents. Moi, ce que je veux, c'est le bien de ce peuple. Et c'était important de le dire. C'était important de le dire. Les précédents avaient accablé le peuple de charges. Ils devaient payer l'argent, le pain, le vin. Les serviteurs dominaient et exigeaient aussi leur part. Mais lui, il insiste sur un point. Et c'est là qu'on voit qu'il se vante pas. Parce qu'il dit, mais moi... Par crainte de Dieu. Toujours la même chose, la crainte de Dieu. Par crainte de Dieu, je n'ai pas agi de la sorte, même si tout le monde l'a fait avant moi. Par crainte de Dieu. Ce n'est pas que je suis meilleur que les autres, mais j'ai la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur, hein. C'est le respect profond et l'amour pour Dieu. Je l'aime tellement, j'ai tellement de respect pour notre Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte, etc. Et là, de Perse aussi, hein, que je ne peux pas faire ça, par crainte de Dieu. Et c'est toujours la vraie raison profonde de notre comportement. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Ce n'est pas la crainte du gendarme. C'est la crainte de l'Éternel qui est le commencement de la sagesse. Et donc, ce n'est pas parce qu'il est meilleur que les autres, qu'il est plus parfait ou par orgueil qu'il dit tout ça. Ce n'est pas pour être au-dessus des autres, pour être vu. Mais il n'a pas d'idéologie politique où il veut écraser les autres. Vous voyez, moi, je suis un homme bien, etc. Il veut se distinguer des précédents, mais pas par fierté. Mais par crainte de l'Éternel, parce que moi j'ai la crainte de l'Éternel. Voyez, c'est à cause de Dieu, c'est pas parce que je veux être plus malin que les autres. Et j'ai pensé que ça vaut la peine, pour terminer, de se poser la question de temps en temps sur nos motivations profondes. Si je ne fais pas ceci ou cela comme un tel et un tel, c'est pourquoi ? Est-ce que c'est pour me mettre en valeur ou est-ce que c'est parce que j'ai la crainte de Dieu ? Quand je ne m'associe pas à ceci ou à cela, c'est pourquoi ? Pour montrer que moi je... ou bien parce que j'ai la crainte de Dieu. Si je refuse tel ou tel compromis, c'est parce que j'ai peur d'être pris ou c'est parce que j'ai la crainte de Dieu. Vous voyez, c'est important de temps en temps de s'examiner soi-même et de dire, moi j'en ai profité en faisant ce texte-là, je me dis, oh là là, dans tout ce qu'on fait, Est-ce que la vraie motivation, c'est j'ai la crainte de Dieu, l'amour et le respect de Dieu, ou j'ai d'autres raisons? Je veux inspirer confiance, je veux paraître bien, je veux... Vous voyez, on peut avoir toutes sortes de motivations. Mais lui, c'est vraiment à cause de la crainte de Dieu. Parce que le danger qui guette le chrétien le plus consciencieux, c'est le pharisaïsme. Ah ça, c'est ça qui nous fait du tort en tant que chrétien. Moi, je ne me mélange pas, moi, je ne fais pas ça ou ça. Moi, je respecte les lois de Dieu. Moi, je... Vous savez, les pharisiens, très vite, mais je donne la dîme de la menthe et des herbes, etc. Je fais ceci, je fais cela. Et on peut tomber vite là-dedans. Et je crois que Néhémie n'est pas tombé là-dedans parce qu'il dit bien, à cause, par crainte de Dieu, je n'ai pas. Voilà, je vais terminer là parce que ça pourrait nous mener plus loin. Mais on va prier que le Seigneur nous aide à vivre dans la crainte de Dieu. Et quand on est dans des situations d'injustice, au travail, ou même envers d'autres chrétiens, ça arrive et ça arrivera, hélas. Et nous-mêmes, on peut être dans une mauvaise situation et donner un mauvais exemple. Enfin, revenons toujours, la racine qui va nous sauver, c'est la crainte de Dieu. Aussi bien pour celui qui fait l'injustice que pour celui qui vit l'injustice. Revenons à la crainte de Dieu. Et là, les choses vont changer. Amen. Seigneur, tu vois, tous mes frères et sœurs et moi-même, que Seigneur, nous avons besoin de renouveler dans nos cœurs cette crainte de Dieu. Cet amour et ce respect pour toi qui va nous donner un comportement recevable pour les gens de notre société. Ils ne pourront pas avoir prise, comme le dit ta parole, afin que la même où ils voudraient nous critiquer, ils ne puissent pas. Seigneur, que nous ne donnions pas prise non plus à l'ennemi. Seigneur, que dans notre vie, nous puissions agir de telle sorte que l'ennemi n'ait pas de prise. Seigneur, viens à notre secours. Viens à notre secours et nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons donné prise à l'ennemi par des mauvais comportements, par des mauvaises pensées, par des mauvaises attitudes, par des choses qui ne te glorifient pas. Que Seigneur, vraiment tu nous pardonnes et qu'on puisse vraiment te louer en esprit et en vérité parce que tu es notre Dieu, nous t'aimons Seigneur, tu es celui qui nous a libérés et nous voulons te suivre fidèlement. Nous voulons vraiment que notre cœur soit attaché à toi afin que ton nom ne soit pas traîné dans la boue par cette société qui nous entoure. Qu'il n'ait pas à dire, oh bah quand on les voit vivre, ça donne pas envie d'être chrétien. Seigneur, que jamais les gens ne puissent dire ça, mais qu'au contraire, ils disent, moi aussi j'aimerais ça. Et qu'ils puissent entrer dans la crainte de l'Éternel, qui peut les faire vivre et leur donner la grâce de te louer, parce que tu es un Dieu de pardon et de miséricorde. Merci Seigneur de nous bénir tous ensemble aujourd'hui, en ce jour où, Seigneur, nous voulons te louer et te glorifier en nous souvenant de ton entrée à Jérusalem. Sur un petit âne, dans l'humilité. Merci Seigneur. Amen.